À présent,
Frédéric Borns.
À présent, ce soir, l'après-coup de la pandémie a déjà commencé avec Catherine Tourette-Turgis et François Ansermet. À présent, ce soir, l'après-coup de la pandémie a déjà commencé. On sait que la pandémie et le confinement ont des effets non seulement médicaux et sociaux, mais psychiques. Mais on croit qu'ils viennent toujours après, comme un après-coup secondaire temporellement et dans son importance. Peut-être cet après-coup psychique est-il au contraire contemporain de l'événement. Il a déjà commencé, il faut en parler dès à présent. Nous le faisons avec Catherine Tourette-Turgis, professeure d'éducation thérapeutique à Sorbonne Université, présidente de l'Université des patients, et avec François Ansermet, psychanalyste, professeur honoraire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Genève et membre du Comité consultatif national d'éthique. Bonsoir à vous deux, Catherine Tourette-Turgis et François Ansermet. Ne vous étonnez pas si je m'adresse à vous l'un après l'autre. Nous sommes un peu à distance, en partie à distance. Je suis sur place et vous êtes chez vous. Et on va essayer d'avoir une vraie conversation à trois malgré cet obstacle technique. Et je vais d'abord m'adresser à François Ansermet, qui est à Lausanne, je pense, même plutôt qu'à Genève. François Ansermet, merci d'être là ce soir. J'introduisais cette discussion. En proposant l'idée que on pense toujours que l'effet psychique d'un événement, et même d'un événement aussi grave que la pandémie, l'effet psychique, on le prend au sérieux, mais après, on le met quand même comme quelque chose de secondaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi est-ce que, comme ça, on a quand même toujours tendance à mettre le psychique après ce qui paraît plus sérieux, la maladie elle-même, les effets sociaux? Pourquoi cette minorisation de la dimension psychique des événements, François Ansermet?
Ben, ça dépend, évidemment. Comment chacun vit la pandémie, on pourrait dire dans une certaine mesure, à chacun sa pandémie. Et une patiente me disait tout à l'heure, je crois que j'ose la citer, que cette pandémie, elle la vit comme une période sans après. Ça m'a frappé par rapport au thème de l'émission, sans après, c'est-à-dire comme si il n'y aurait pas d'après-coup. Et au fond, beaucoup de ce que je vis dans l'expérience clinique met en jeu l'idée d'un instant arrêté, un instant figé, un instant dilaté, un instant qui ne passe pas, un instant statique, comme un marécage de l'instant présent, comme un gouffre paralysant, c'est-à-dire un temps devenu immobile sur le seuil du temps, et qu'au fond, certains vivent ça comme un vélo à l'arrêt, et quand un vélo s'arrête, il tombe.
Mais alors justement, donc, François...
Frédéric Worms...
Allez-y.
Oui.
Justement, je voulais vous demander...
Je pense qu'il y a un télescopage. Là, on se télescope d'ailleurs par le fait qu'on parle à distance. Ouais. Mais il y a un télescopage entre l'après-coup qui est collisionné avec le coup de l'épidémie.
Mais alors justement quand même, François Ansermet,
ça prouve... Coïncidence entre le coup et l'après-coup.
Ça prouve justement le fait que pour certains patients, certains sujets qui vivent l'événement temporellement justement, l'après-coup les marque déjà. Quand on dit il n'y a pas d'après, c'est quand même déjà, pour vous, est-ce que c'est quand même déjà, sans aller trop loin, mais déjà un signe clinique, quelque chose comme un danger psychique au fond qui affecte ces sujets? Quand il n'y a pas d'après, c'est quand même effrayant, un peu angoissant, François Ansermet.
Bien sûr, c'est angoissant, et c'est d'ailleurs dire qu'il n'y a pas d'après, c'est un signe de l'angoisse. C'est au fond l'idée que quelque chose a eu lieu qui sidère. C'est une sidération. Finalement, c'est une sorte d'abolition du temps. C'est-à-dire dire que l'après est déjà maintenant, c'est aussi dire que le temps s'est arrêté. Qu'on est dans un instant figé, dans un instant éternisé, dans un instant qui n'a plus les valeurs de l'instant.
Alors c'est paradoxal évidemment, puisque la pandémie a aussi d'autres caractéristiques temporelles, comme son incertitude, son changement permanent, son évolution. Catherine Tourette-Turgis, de votre côté, dans vos articles récents concernant l'accompagnement psychosocial de la pandémie, la prise au sérieux de cette dimension psychique, vous insistez, il me semble en tout cas, sur cette nécessité justement qu'il ait lieu tout de suite, qu'il n'ait pas lieu après, qu'il ait lieu. Il y a une certaine urgence. On met tout le temps l'urgence du côté de l'ambulance, des soignants qui arrivent, et c'est important, évidemment, avec leur équipement pour empêcher la mort. Mais il y a aussi une urgence psychique, psychosociale, Catherine Tourette-Turgis.
Oui, Frédéric Borbe, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai publié avant le confinement le fait que le confinement allait avoir un impact social et qu'il fallait tout de suite mettre en place des dispositifs. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, il y avait un avant, puisqu'on on disposait déjà dans le Lancet, ce qui n'est quand même pas n'importe quelle revue, de par exemple les résultats de l'enquête chinoise conduite en population générale auprès de plus de 52 000 personnes, et on avait des taux donc d'anxiété, de dépression de 33% et de 5,7%
dans la population chinoise.
De détresse sévère. Mmh. Et puis après, on va s'apercevoir tout au long de l'épidémie que globalement, quels que soient les pays, on va toujours être entre 20 et 30 %. Et d'ailleurs, très récemment, on est monté à 15 %, puisqu'après l'été, il y a eu une espèce de recovery, enfin une espèce de rémission. Et pourquoi on est toujours avant-après ? Moi, par exemple, je travaille dans le cancer. Dans le cancer, dès que vous avez un arrêt des traitements, c'est-à-dire que vous avez donc un diagnostic de rémission, que ça s'arrête, eh bien, c'est là qu'il faut commencer à se rétablir. Et le rétablissement, ça dure encore 2 ans, 3 ans, etc. Donc, en fait, c'est avant et après, c'est ce que disait François Sermé, ce que vous dites vous, Frédéric Vors, c'est en permanence, parce qu'il y avait un avant, il y a eu d'autres épidémies. Moi, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'épidémie de sida. Donc on savait bien d'emblée, moi je me souviens dès les années 85, d'être allé au ministère et d'avoir dit non, 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 ce ne sera pas qu'une réponse médicale qu'il faudra. C'est une épidémie où il y aura une deuxième épidémie qui est l'épidémie des réactions psychosociales à la première. C'est-à-dire c'est tout de suite qu'il faut prendre les choses.
C'est ça, mais alors justement, voilà, parce que vous dites que c'est une deuxième épidémie. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit qu'il y aura une troisième vague, et la troisième vague sera mentale, sera psychologique, sera psychique. Là, c'est vrai que c'est important d'en parler comme ça, au même niveau de gravité que les autres, mais enfin, Catherine Tourette-Turgis, vous venez justement de dire, il ne faut pas pour autant dire une deuxième au sens d'un après, comme si on pouvait attendre. Il me semble que vous montrez aussi qu'il y a une urgence au sens où notre cerveau même, notre psychisme, doit être tout de suite pris en charge, sinon la pathologie risque d'être irréversible, de le hanter toute sa vie, tout autant qu'une cicatrice sur le corps.
C'est-à-dire qu'en fait, d'emblée, il faut s'orienter vers le rétablissement. Et on voit d'ailleurs que dans les catastrophes naturelles, c'est plutôt mes travaux de psychosociologie, on règle la crise sanitaire, on règle la crise économique, et après on a ce qu'on appelle la crise de l'impact humain. Et là, les impacts humains, ça peut durer 2 ans à 3 ans, bien après que les deux autres crises aient été résolues.
Eh bien, quand vous dites justement bien après, cet après, donc il faut s'en occuper tout de suite. François Ansermet, est-ce que c'est ce que vous faites dans votre clinique aussi, quand vous recevez les patients, au fond, d'abord, est-ce que finalement il y a, si j'ose dire, des nouveaux patients, des patients qui justement souffrent de cette situation, et est-ce que vous les incitez à venir, à maintenir le lien, comme on fait ce soir à distance un petit peu, mais malgré tout, quelle que soit la façon, parce qu'il y a justement, vous ressentez cette urgence du soin psychique, au moins aussi urgent que tous les autres ?
Absolument. Je partage tout à fait la vision de ce que vient d'énoncer Catherine Tourette-Turgis. Il y a une urgence, urgence parce que c'est une situation de crise. Ça se joue vraiment dans le moment où ça surgit, et que par rapport à ce surgissement, on est un peu dans la même situation qu'un traumatisme. La psychanalyse pense le traumatisme comme traumatisme après coup. C'est-à-dire qu'il y a le traumatisme, mais dans le traumatisme vient s'engouffrer tout ce qui était en amont. Mmh. Et qu'au fond, il y a un effet de loupe virale qui révèle les souffrances, qui augmente les difficultés, qui au fond, propage chez le sujet une sidération, une pétrification, quelque chose. Donc, il s'agit de le prendre dans le moment où ça se passe. Après, vous posez, Frédéric Worms, une question complexe, parce que ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'après-coup du traumatisme. Parce que l'après-coup, peut-être je peux dire une chose un peu paradoxale, en clinique, avec l'enfant qui a vécu un traumatisme, ou l'enfant malade, l'enfant cancéreux, comme citait Catherine Tourette-Turgis, et des fois c'est un deuxième événement, quelque chose de tout à fait différent, qui peut révéler le traumatisme et même on peut s'appuyer sur ce deuxième événement pour sortir du traumatisme.
Qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple,
du traumatisme?
Quel est le deuxième événement auquel vous faites allusion ici, par exemple?
Non, alors bien sûr, là, vous Frédéric Worms, vous y avez référence à une nouvelle vague et un nouveau confinement, comme effectivement le deuxième confinement partiel, mais enfin quand même là, a été le traumatisme après coup du premier confinement, avec des fois la cascade des effets du traumatisme qui est plus évidente dans le deuxième temps que dans le premier temps. Parce que le premier temps s'accompagne de sidération, de pétrification qui peut même être sans symptômes. Des enfants qui ont vécu des traumatismes majeurs, qui ont, dans un accident par exemple, qui ont perdu père, mère, frère, peuvent ne présenter aucun symptôme. Un des premiers patients que j'ai vu de ce type, on m'a appelé parce qu'il n'avait aucun symptôme. Par contre, le deuxième événement, qui peut être la récidive du confinement, le retour du, mais aussi un événement autre, un événement lié à l'inégalité, la pauvreté, peut réveiller une cascade traumatique. Donc je dirais qu'il y a plusieurs temps au traumatisme, un premier qui est la sidération, un deuxième qui est tous ces phénomènes d'après-coup, mais que l'enjeu c'est aussi la sortie du traumatisme, qui se joue dès l'entrée dans le traumatisme.
D'accord. Et
il faut la penser dès l'entrée dans le traumatisme.
Vous venez de parler de l'enfant, vous avez enseigné et pratiqué la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et Catherine Tourette-Turgis travaille sur l'éducation thérapeutique. On reviendra sur cette dimension, mais François Ansermet, je voudrais insister sur un point très important dans ce que vous avez dit. Vous dites, au fond, il y a un danger dans les traumatismes qui se répètent, mais il y a peut-être aussi, entre les deux, un espace pour que la vie du sujet, finalement, réapparaisse, réémerge, même sous une forme blessée, brisée, mais au moins, c'est mieux que le silence total, c'est mieux que ce que vous appeliez, justement, avec précision, la sidération.
Absolument. Frédéric Worms, ça me paraît... c'est paradoxal dans une certaine mesure.
Bah oui, parce que le deuxième coup, on a envie d'y échapper, mais c'est vrai que...
On a envie d'y échapper, mais au fond, on peut se servir du deuxième coup pour sortir du premier. C'est-à-dire que le fait qu'un traumatisme, peut-être dans le premier temps, fige complètement la psyché du sujet, peut-être dans le deuxième temps, il peut apparaître symptomatique, il peut apparaître avec une certaine gravité, mais c'est aussi le traitement imaginaire et symbolique du réel mis en jeu par le traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'issue aussi.
Ce qui est intéressant, là aussi, dans ce que vous dites, c'est la façon dont vous le rencontrez dans une clinique individuelle. Catherine Tourette-Turgis, j'ai l'impression que de votre côté, vous menez des enquêtes avec les méthodes des sciences sociales, de la psychologie et de la sociologie, de la réflexion sur l'éducation thérapeutique. Vous en avez publié plusieurs. Vous insistez aussi sur l'effet de l'impact de la pandémie et du confinement qui sont inséparables sur les jeunes. Est-ce que vous observez avec cette autre méthode, un petit peu vous avez le même genre d'impression, vous observez aussi cet effet de la répétition, cet effet paradoxal du temps?
Alors, pour reprendre ce que disait excusez-moi, François Ansermet, puisque vous disiez aussi Frédéric Worms, moi j'ai fait un tout petit peu dans l'autre sens, mais on va voir comment justement ce sont des compléments. J'ai travaillé sur l'expérience vécue du confinement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décomposé un petit peu pour me mettre à l'écoute de la population générale, puisque moi, mon patient, c'est la population générale. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier que dans les épidémies, on a un patient de première importance, c'est la population générale, puisqu'il faut éviter qu'elle tombe malade, soit d'ailleurs du virus, soit justement de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire du traumatisme de la situation.
Alors vous allez nous dire comment on soigne la population générale comme patient, c'est une image très forte.
C'est ce qui me passionne et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que nous sommes allés dans des mairies. Ouais. Et donc j'ai créé un petit outil parce que je me disais le confinement, je l'ai décomposé en dimensions. Alors j'ai pris la dimension professionnelle du confinement, la dimension économique, la dimension scolaire, la dimension professionnelle, la dimension conjugale, familiale, sexuelle, etc. Ouais. Et donc du coup, ça permettait quand les gens venaient, j'avais fait un petit score de 0 à 10, ils s'auto-évaluaient, on regardait chaque dimension. Et là, on voyait par exemple, je ne sais pas moi, que telle personne, une femme, elle dit, j'ai été en conflit sans arrêt entre deux dimensions, c'est-à-dire à la fois, je voulais sauver ma dimension professionnelle parce que je travaillais à la maison, mais je voulais aussi sauver la dimension familiale et puis la dimension scolaire. Donc c'est vrai qu'à un moment, j'ai pris une option, j'ai lâché un peu sur le scolaire. Et puis le mois d'après, j'ai lâché un peu sur le professionnel. Et le fait que les personnes pouvaient se réapproprier, et donc elles avaient l'impression d'être des sujets, d'avoir fait des choix, et donc elles n'avaient pas rien fait, et de voir que leur dimension, eh bien, elles pouvaient décider qu'elles allaient les renforcer sur un point ou sur un autre. Et donc, d'emblée, si vous voulez, là, la réponse, je crois, c'est éviter absolument le silence, débriefer, faire des groupes de parole, des groupes dans la population générale, par tous les moyens dont on dispose, des lignes d'écoute, etc., pour éviter que ce patient, qui est la population générale, ne devienne malade.
C'est très intéressant la manière dont l'analogie, dont vous faites une analogie entre le travail de l'analyse individuelle avec un patient qui parle devant un thérapeute, et puis cette analyse dont vous proposez des outils pour que les patients de la population générale, comme vous dites, on va y revenir, analysent leur pratique, analysent leur expérience plutôt. C'est-à-dire, au fond, vous les aidez à diviser ce bloc qui pourrait être totalement paralysant, ce bloc d'expérience un peu qui définit toujours un traumatisme, Catherine Tourette-Turgis.
En fait, ce que j'essaye de promouvoir comme action citoyenne, d'accompagnement de la population générale, c'est de la mise en récit, de la narrativité. Par rapport à l'épidémie de sida, moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'épidémie de Covid, c'est une épidémie froide. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas de visage. Dans le VIH sida, mais on avait sans arrêt des personnes qui venaient même, je me souviens, à la télévision dans les années 80.
Qui faisaient intrusion, qui faisaient des actions militantes.
Des actions militantes, mais aussi des malades qui venaient parler, donc on pouvait mettre des mots. Là, c'est une épidémie où il n'y a pas, ce n'est pas porté, elle n'est pas charnue, elle n'est même pas corporelle, au sens où on viendrait expliquer. La population générale, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est aussi les enfants.
La parole dont vous regrettez l'absence, Catherine Tourette-Turgis, c'est la parole justement des patients. Il y a beaucoup de paroles sur l'épidémie. Il y a la parole officielle, il y a la parole politique, il y a la parole des experts. Il y a beaucoup de paroles, mais vous dites, là, on n'entend pas assez les gens dont vous dites qu'ils sont dans la population générale, mais disons les patients, ceux qui subissent à titre subjectif, personnel au fond, l'épidémie et l'épreuve en général.
On n'entend pas assez les patients, on n'entend pas assez les proches des patients, parce que les proches de patients, les proches de personnes décédées qui ont été privées de deuil même au sens de processus psychique, puisque le deuil, ça commence souvent à l'hôpital, il y a les soignants autour, il y a un partage, il y a une préparation à la séparation, là, il n'y a rien eu. Donc, on voit bien là, on a aussi, je me souviens, moi, je suis aussi membre de l'Association américaine de psychologie, parce que j'ai vécu 10 ans en Californie, on a reçu un papier très rapidement au mois d'avril, en disant, ceux qui parmi vous travailler sur les deuils, prévoyez, ça c'est très américain, mais une période de 6 à 12 mois de plus long. Ça sera des deuils complexes, complexes grief, et ils seront plus longs. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. On a des réponses, il faut s'en saisir, les partager, et cette mise en parole, cette mise en récit, moi, c'est vraiment ce qui... Donc moi, je fais des groupes de mise en récit, en fait. Voilà, le psychosocial, ça sert à ça, d'ailleurs.
Donc, on savait avant, effectivement, comment tout ça allait se passer. Malgré tout, quand ça survient, on a un temps de retard. On a préparé des plans, des masques. On a aussi préparé des thérapeute pour parler, pour accompagner les deuils. On va y revenir dans un instant avec vous, François Ansermet, mais si vous êtes d'accord, d'abord un peu de musique.
Muss es sein, es muss sein, cela doit-il être, cela est, Ludwig van Beethoven. Es muss sein, depuis voilà bientôt 30 ans, depuis voilà bientôt 30 ans, depuis voilà bientôt 10 jours, depuis voilà bientôt 10 jours, depuis voilà bientôt ta gorge, depuis voilà bientôt ta source, depuis que je traîne ma course, au creux des nuits comme un forçat, au creux des nuits comme un forçat, à patibuler mon écorce, à patibuler mon écorce, muss es sein, es muss sein. Vers l'avenir, depuis que rien ne se dévore, à part les ombres sur le mur, depuis que tu me sers encore, la défaite sur canapé, muss es sein, es muss sein, muss es sein, es muss sein. Une araignée m'a dit bonsoir, elle se traînait au crépit depuis que mon âme bascule. Des filles plus mécaniques, depuis que gavé de musique, je vais porter ma gueule ailleurs. Une araignée m'a dit, d'ailleurs, le tout, c'est d'avoir la pratique. Ha 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 ha! Muss es sein? Es muss sein!
France Culture.
À présent.
Frédéric Worms.
Ludwig!
À présent, ce soir, l'après-coup de la pandémie a déjà commencé avec Catherine Tourette-Turgis et François Ansermet. François Ansermet qui nous propose cette rage de Léo Ferré évoquant lui-même Ludwig van Beethoven et plutôt son sens de la fatalité. François Ansermet, les Beethoven qui disaient « Muss es sein », est-ce que ça doit être ?« Es muss sein », cela doit être. Et puis voilà que vous nous en proposez une version inédite, rageuse, Léo Ferré au Palais des congrès. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez que c'est essentiel aujourd'hui d'écouter ça, François Ansermet?
Écoutez, Frédéric Worms, en prenant de nouveau Ferré, c'est une intensité tout à fait particulière, une rage, comme vous le dites. En fait, Es muss sein, c'est une dédicace de Beethoven dans le dernier quatuor à cordes, le quatuor numéro 16, opus 135, qu'il a composé en 1826, qu'il a publié en 1827, mais il est mort lui-même le 26 mars 1827, donc ça a été produit après sa mort, et il a mis comme sous-titre à ce quatuor « La décision difficilement prise ». Et je trouvais que « Muss es sein », est-ce que ça doit être « Es muss sein », ça doit être touche beaucoup cette question de la politique des décisions, de la décision subjective, de la décision de chacun dans sa propre vie, de savoir s'il sort, s'il reste dedans, s'il attend, s'il respecte ou s'il respecte pas ce qui a été prescrit. Donc, au fond, une tension extrême, une incertitude aussi, une inquiétude immanente qui ressort de tant de l'œuvre de Beethoven, sauf que Beethoven, lui, c'est presque joyeux. Enfin, il y a quelque chose de sublime qui transforme tout à fait ce questionnement, mais au fond, là, on a dans ce dilemme, muss es sein, es muss sein, toute l'ambivalence qui habite tant le collectif que le plus intime de chacun. Enfin, je crois que par rapport à ce qu'on discutait juste avant avec Catherine Tourette-Turgis, c'était très intéressant parce qu'on peut se dire ce qui est dit de son patient qui est le collectif ou ce qui est dit de mon patient qui est le un par un de la clinique, ouais. On retrouve presque les mêmes dilemmes.
Alors on va revenir sur cette intersection de l'intime et du collectif, du patient individuel et de la population générale. Encore un mot quand même, François Ansermet, sur l'interprétation que vous donnez de cet extraordinaire dialogue entre Beethoven et Léo Ferré. On a l'impression quand même que l'essentiel déjà chez Beethoven, c'est de poser la question. Muss es sein, est-ce que c'est vraiment nécessaire, par exemple, en effet, que le mal nous tombe dessus, que les décisions politiques nous contraignent, qu'il faille prendre soin de la santé? Et ensuite, qu'il réponde « es muss sein », c'est-à-dire l'acceptation. Finalement, Léo Ferré a raison, l'acceptation n'est pas passive, l'acceptation c'est aussi un geste fort, l'acceptation de la situation, ça peut être une révolte. Il y a une révolte dans le fait de dire « oui » parfois, François Ansermet.
Absolument, oui, cette révolte, elle est nécessaire pour sortir de la situation. Mmh. Et que, effectivement, c'est toute la complexité entre l'intime et le collectif, parce que la révolte intime qui fait que le sujet se réveille et fait quelque chose de ce qui lui arrive est très différente de la révolte collective, qui peut être aussi une autre type d'épidémie, une épidémie d'ambivalence, une épidémie de peur, une épidémie de déni, une épidémie de défiance, une épidémie de crise de la solidarité, voire une épidémie de haine. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à contraster dans la suite de notre discussion entre ce qui est intime et ce qui est collectif et comment les deux peuvent se nourrir ou au contraire entrer en contradiction.
Alors, Catherine Tourette-Turgis, évidemment, je vais vous demander ce que vous en pensez. On parle beaucoup aujourd'hui de l'acceptabilité, par exemple, des mesures de confinement. Et là, on voit une acceptation. Et en effet, dans les publics, entre l'intime et le collectif, comme disait François Ansermet, il y a les deux. Il y a le refus, la révolte, l'acceptation, rarement comme Beethoven ou Léo Ferré, mais quand même. Et puis, il y a l'entre-deux, le silence. Comment est-ce que vous voyez ce nouage, au fond, de l'acceptation individuelle et politique, Catherine Tourette-Turgis?
Je vais rebondir sur votre question, Frédéric Worms, mais je vais surtout reprendre cette idée qui est absolument, effectivement, brillante de nos cliniques complémentaires de la population générale et du sujet. Alors moi, je vais juste vous parler avant de voir si cette population générale peut se protéger. Je vais vous parler de mon patient, qui est la population générale.
Alors, parlez-nous de cette personne-là.
Eh ben, c'est un patient, la population générale. Augmentation de 10% d'anxiolytiques en population générale. Mmh. Augmentation de 15% de consommation d'alcool. Augmentation de 33% de violences domestiques pendant le confinement. Mmh. Augmentation de 20% de maltraitance à enfants. Donc, on voit bien qu'on a une population vers laquelle il faut courir tout de suite.
Il ne va pas très bien, ce patient-là, la population.
Ce patient-là ne va pas très bien, mais si vous regardez bien, il a une ligne qui s'appelle anxiété, dépression, et il a troubles de sommeil. Ce qui est intéressant, c'est que les troubles de sommeil sont dans la population au mois de mars, ils sont quasi les mêmes encore en octobre. Et si vous regardez 19-21 octobre, on prend 5 points sur la séroprévalence de la dépression. On passe de 10,5% à 15,5%. Ça veut dire que cette population, si on veut faire de la prévention, il faut le sculpter en permanence. Mmh. On voit bien que dès qu'elle commençait à se remettre, notamment vers septembre, octobre, l'annonce, une prédiction comme ça de couvre-feu, la crise économique, hop, elle rechute. Donc, on ne peut pas demander à la population de faire tous les efforts de prévention si on ne prend pas soin d'elle. Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a des facteurs, des déterminants, et ça, on le sait depuis les autres épidémies. Mmh. Une prévention, il faut un degré d'acceptabilité de la règle. Bon, c'est vrai qu'on n'est qu'à 45-55%, et en même temps, on a quand même des taux de prévention élevé, mais ce qui est nécessaire, et là c'est peut-être une autre casquette qui est la casquette éducation thérapeutique, eh bien c'est de faire de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire par exemple sur le masque ou dans toute prévention, c'est que la personne adopte un moyen de prévention si elle sent qu'elle va être capable de le faire, si elle a envie de le faire et si elle a confiance.
C'est la confiance.
Et si aussi peut-être de temps en temps on l'encourage, on la félicite, etc. Eh bien, donc, c'est tout ce qui nous reste à faire. Je veux dire, dans, le VIH-Sida, si ça avait suffi de dire « mettez un préservatif », on n'aurait pas eu 20 ans d'épidémie.
Oui, c'est tout le problème de ce que vous appelez d'ailleurs d'un terme très fort la santé mentale publique, c'est-à-dire au fond ces comportements individuels qui font partie de la, du soin, dans, en l'occurrence, autant que les traitements médicaux, Catherine Tourette-Turgis. Il y a une chose quand même, il me semble, on va revenir hein, sur cette idée de santé mentale publique, sur cette population générale, et il y a une chose qui me frappe quand même comme différence finalement entre le patient, disons, de François Ansermet et le vôtre, la population générale, c'est que la population générale, justement, on peut l'analyser, on peut parler en son nom parfois, mais quand est-ce qu'elle parle elle-même ? Quand est-ce qu'elle parle au même sens que Léo Ferré ou Ludwig van Beethoven ? Quand est-ce qu'elle dit oui ou non ? Quand est-ce que vous l'entendez vraiment, cette parole-là ? Ou est-ce qu'on la déduit simplement par des symptômes, par des signaux, et des signaux angoissants, inquiétants, ceux que vous venez de rappeler d'ailleurs ?
La population générale, elle parle... Par son sentiment d'ennui, par sa détresse, elle parle aussi, comme on l'a vu en Italie, par la colère, c'est-à-dire elle fait des manifestations, puis elle dit « nous, on n'est pas d'accord ». D'ailleurs, c'est toujours très important, ces moments de colère, surtout, bien sûr, s'ils sont organisés, parce que ça permet aussi, on l'a bien vu ça dans la lutte contre le sida, la colère, elle était mobilisatrice pour tout le monde.
Une colère avec un but, avec un message
et
d'ailleurs...
Et puis collective, partagée. Oui. Pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie, au contraire. Et vous-même, François Ansermet, donc, dans cette idée que vous évoquiez, qu'il y a une parallèle entre les deux patients, plus qu'un parallèle finalement, un lien très fort. Nous sommes tous à la fois des sujets individuels et une partie de ce collectif. Comment est-ce que vous voyez la population générale, le fait que vous l'ayez pris spontanément aussi comme un patient singulier, comment est-ce que vous le traiteriez d'ailleurs, cet étrange patient collectif ?
Oui, cet étrange patient collectif qui est en dialectique avec l'intimité de chacun, je pense qu'on peut le prendre aussi à partir du phénomène de la pandémie. Mm-hmm. C'est-à-dire, comme le disait Virchow, qui était à la fin du 19e, début du 20e, autour de la typhoïde, Virchow disait « une pandémie est un problème social avec quelques aspects médicaux mm-hmm. ». On pourrait dire de même, une pandémie est un problème. Et non pas l'inverse.
Voilà.
On pourrait dire de même, une pandémie est un problème subjectif avec quelques aspects médicaux. Mm-hmm. Je fais un écho à Virchow. Et que, au fond, comment les problèmes sociaux et subjectifs occupent la première place? Parce que c'est quand même la difficulté aussi du traitement de la pandémie. On dit le confinement, les mesures barrières. Mm-hmm. Au fond, il y a des éléments avant le vaccin qui sont connus. Et malgré ça, c'est si difficile d'arriver à maintenir les choses. C'est-à-dire qu'une épidémie, une pandémie, c'est à la fois faire face à l'incertitude et au chaos. On pourrait dire incertitude et chaos sont deux signes majeurs d'une pandémie. Et il est important, comme vous l'avez dit, Frédéric Worms, et comme le dit Catherine Tourette-Turgis dans cette émission, de convoquer les pouvoirs publics, la responsabilité collective, les dispositifs de soins, par rapport à ces dimensions-là, incertitude et chaos, qui touchent tant le côté subjectif que le côté collectif.
Oui, on va revenir d'ailleurs avec vous deux sur les remèdes, les thérapeutiques. Comment est-ce qu'on répond à ces détresses individuelles et collectives? Quel cadre est-ce qu'on doit même proposer pour les affronter? Mais encore un mot quand même, François Ansermet, quand Catherine Tourette-Turgis donne des chiffres, des statistiques, tant de pourcents d'anxiété, de problèmes de sommeil. Dans votre article, Catherine Tourette-Turgis, vous parlez aussi des changements d'habitude de vie, des baisses de l'activité physique, d'un certain nombre de signes. Vous-même, François Ansermet, quand vous voyez ces statistiques, au fond, vous les voyez sans doute comme une vague, d'ailleurs, de virus, arriver ensuite dans votre cabinet avec un visage et une voix individuelle. Mais au fond, cet aspect collectif, cet aspect aussi de santé publique, comment vous l'acceptez aussi comme un fait, ces statistiques, finalement, ces phénomènes d'ensemble, avant même que les sujets individuels n'arrivent chez vous?
Absolument, c'est extrêmement important d'être au fait de ces évolutions, mmh. et qu'effectivement on peut dire que là j'ai introduit l'intime et le collectif, mais je crois que peut-être on peut retourner à Freud qui disait que toute psychologie individuelle est aussi simultanément mmh. une psychologie sociale, une psychologie collective. Je crois qu'on peut pas séparer les deux. Là on l'a fait pour dialectiser entre deux intervenants qui ont deux positions différentes, mais je crois que c'est l'articulation entre les deux qui est très importante. Alors oui, ces signes sont des signes d'alerte, des indices de quelque chose qui se passe, l'anxiété, la dépression, mais comme l'a dit Catherine Tourette-Turgis, un phénomène important qui pose beaucoup de problèmes dans la gestion de la pandémie, mm-hmm. c'est la rage. Mmh. C'est une colère collective, c'est une révolte, c'est un refus, c'est un retournement en son contraire. Il y a une dimension d'ambivalence où tout se retourne, la peur en défi, la confiance en défiance, la solidarité en haine. On a vu que les soignants étaient aussi mal pris dans mmh. cette situation. Et là, je crois qu'on doit s'occuper de cette autre épidémie qui serait peut-être une sorte d'épidémie, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'un autre type mm-hmm. qui ne doit pas être vu et traité après. Comme vous le dites, Frédéric Worms, ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé.
Là tout de suite, c'est même là simultanément.
Mais justement, on a l'impression, en vous écoutant l'un et l'autre, et vos discours se croisent dans un point très, très important, qu'il faut distinguer entre deux colères, j'allais dire, ou deux épidémies de politique, l'une qui serait quand même, c'est ce que disait Catherine Tourette-Turgis, une réponse au fond, la voix même du patient collectif auquel nous appartenons tous, et puis une autre, celle que décrit François Sermet, qui serait quand même non pas une colère exprimant une subjectivité, mais au contraire peut-être refusant le dialogue, se refermant sur elle-même, peut-être destructrice. Est-ce que, Catherine Tourette-Turgis, vous pensez qu'on peut distinguer ces deux réactions, ces deux colères collective et sans doute aussi profondément ces deux rages même individuelles, est-ce que vous pensez que de toute façon même la colère destructrice c'est mieux que le silence abyssal?
Oui, j'ai suivi moi de toute l'enquête là du Sevipov de Sciences Po qui était ouais. sur trois variables: l'espoir, la colère et la peur. Mmh. On s'apercevait qu'il fallait un petit peu de peur pour que les gens puissent se protéger, mais il fallait aussi qu'ils aient de l'espoir. Mmh. Et quand ils étaient trop en colère, à ce moment-là, on s'apercevait que certaines propositions gouvernementales étaient refusées. Donc mmh. on voyait bien que la société, elle battait un peu son cœur, là, entre mmh. espoir, colère et peur. Et puis il y a aussi une autre chose que je voudrais ajouter. Il y a quand même deux activités qui ont été réduites pendant le confinement. C'est l'activité professionnelle et l'activité sexuelle. Mmh. Puisqu'on a 44%, à un moment, il y a une enquête qui dit n'avoir eu aucune relation sexuelle pendant un mois, couple vivant sous le même toit, etc. Et puis après, on a aussi du 15 à 18%, je crois, chez les jeunes qui disent ben non, on n'a plus de libido, etc. Donc je crois que c'est pas rien quand même, quand tout d'un coup, ces activités-là, mmh. au fondement justement de la subjectivité, mais aussi de l'intersubjectivité, enfin, mmh. quand il y a une panne érotique dans un pays, il me semble qu'il y a, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Alors, bien évidemment, je suis allée voir. Donc, en Italie, ils ont eu la même chose, parce que je me suis dit, est-ce que c'est la France? Est-ce que, bon, en Italie, la même chose. En Angleterre, la même chose. Mmh. Les Chinois, je crois, j'ai pas vu leur enquête, ils ont peut-être même pas porté attention à ça. Mais nous, on s'intéresse à l'activité sexuelle parce que c'est une variable mmh. de bien-être d'une population. Et donc, si là, il y a quelque chose qui se passe, eh bien, c'est un indice, une alerte que mon fameux patient, la population générale, eh bien, il va pas bien.
Bien sûr, donc finalement, entre la maladie et les symptômes politiques dont beaucoup s'inquiètent aujourd'hui, ou bien au contraire les réactions positives politiquement, même cette colère positive articulée avec l'espoir et la peur, entre les deux, il y a notre vie psychique relationnelle, notre vie corporelle, notre vie relationnelle avec dans l'amour, dans le travail, dans tout ce qui est aussi affecté par la pandémie, et dont nous allons reparler après notre deuxième morceau de musique.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
À présent,
Frédéric Borns.
À présent, l'après-coup de la pandémie a déjà commencé. Ce soir, nous en parlons avec Catherine Tourette-Turgis et François Ansermet. Catherine Tourette-Turgis qui nous propose la voix de Leonard Cohen que nous sommes en train d'entendre, que nous venons d'entendre. Une voix qui vient, Catherine Tourette-Turgis, après ce que vous disiez sur la panne du désir, la panne de l'amour et de la politique entraînée par la pandémie. Vous allez peut-être nous dire pourquoi cette voix aide à y répondre. Et puis ensuite, je voudrais revenir, Catherine Tourette-Turgis, et avec François Ansermet aussi, sur les réponses. Et il me semble que dans un de vos articles, vous avez une remarque très forte sur l'idée d'un confinement inclusif aussi, pas traiter la population générale comme un bloc, mais justement s'adresser aux plus vulnérables, à ceux qui peuvent être particulièrement sujets aux pathologies que nous étudions. Mais je vous laisse, Catherine Tourette-Turgis, réagir aussi bien à Leonard Cohen qu'à la continuation de notre discussion avec François Ansermet ce soir.
Oui, merci. Leonard Cohen, c'est... Voilà, je voulais de l'émotion, ce besoin émotionnel que... une épidémie, c'est pas rationnel et on est privé de ces moments-là, de un peu d'allégresse. Et voilà, donc j'ai envie de partager ça. Par rapport au confinement inclusif, oui, moi ce qui m'avait frappé dès les premiers jours de confinement, c'est que, qu'est-ce qu'on fait des sans-domicile fixe? Où est-ce qu'ils se confinent? Comment tout d'un coup ils se sont trouvés justement à devoir survivre? Ils n'avaient plus rien à manger, puisque même si de toute façon, même s'ils restaient dans la rue, il n'y avait plus personne dans les rues. Je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Donc.
Il y a un livre qui vient de paraître à leur sujet et qui s'appelle Les Inconfinables de Julien Damon. Un livre, Les Inconfinables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression aussi?
C'est formidable. Oui, je vous remercie, Frédéric Worms. Je vais m'empresser d'aller le chercher.
Parce que c'est vrai, ils sont dehors, ils n'ont pas de chez soi où se confiner, où confiner ceux qui sont sans logis, ceux qui sont sans abri.
Oui, ce qui m'a frappé aussi, moi, c'est pourquoi, quand il y a eu l'annonce du confinement, on n'a pas préparé les gens à prendre la décision avec qui je me confine. Ce qui fait que la femme qui était en danger aurait pu dire ou réfléchir, elle aurait eu le temps, elle ne lui a pas laissé le temps. On a fait comme si les adresses étaient les adresses, monsieur et madame, vous habitez là, donc c'est là. Ben non, parce qu'en plus, il fallait des preuves d'identité matrimoniale, enfin des choses. Donc elle aurait pu dire, je vais chez ma sœur, je sais pas, je vais... les enfants, enfin... C'est pas parce qu'il y avait confinement qu'il n'y avait pas de démocratie. Si on avait choisi le lieu où on avait pu se confiner. Donc, bien sûr que ce n'était pas interdit, mais il fallait une campagne d'emblée. Il fallait dire, vous avez 24 heures, pour que les gens... Il fallait tout de suite des anges gardiens, des accompagnateurs, que ça soit posé par les médias et autres, en disant, faisons attention les uns et les autres, si vous connaissez, organisez-vous, etc. Donc ça, je crois aussi que c'est des choses qui sont complètement simples, qui ne coûtent pas... un centime, de mettre en place tout de suite du care, enfin de quelque chose qui est prendre soin de là où ça va faire danger. Parce que pour certains, l'observance du confinement les a mis en danger, voire à risque.
Bien sûr.
Puisqu'il y a, notamment par rapport à la violence. Et puis l'inclusive, c'est aussi penser à peut-être, ça a été genré. Cette épidémie, elle sera genrée. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes ont un stress mental beaucoup plus important. Elles ont beaucoup fait plus, elles ont plus. Mais on découvre aussi dans la prévention, et ça, c'est au niveau international, que les femmes adoptent plus les mesures de prévention. Donc, il y a aussi sûrement là quelque chose qu'il va falloir apprendre.
Décrypter après coup, là aussi.
Oui, c'est aussi ça l'espoir, c'est que cette épidémie va nous apprendre beaucoup de choses, bouleverser des choses finalement qui n'étaient pas très intéressantes à garder, des choses, je ne sais pas, des discours, des philosophies qui étaient peut-être finalement déprimantes. Vous voyez, on va faire d'autres choix aussi.
J'espère qu'on va se tourner vers les bonnes philosophies pour répondre à l'époque. Catherine Tourette-Turgis, vous venez d'évoquer le début du confinement aussi, et on retrouve la dimension temporelle finalement, c'est cet impératif qui est tombé sans nous laisser de temps, un peu comme le volcan du Vésuve a figé les habitants de Pompéi dans l'attitude où ils étaient. Voilà, alors on était à tel endroit avec telle personne et on est figé là et on n'a pas le temps de réagir. François Ansermet, vous pensez vous aussi que finalement il y aurait pu avoir une marge qui aurait pu être à la fois sociale, politique, psychique, intime, et qu'au fond il faut entre la population générale finalement comme un tout et les sujets individuels, il y a aussi des groupes, des catégories plus vulnérables que d'autres, justement là on parlait des femmes et des hommes, des enfants et des vieux. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur les vulnérabilités des enfants, même on en parle très peu, leurs peurs, leurs angoisses face à la responsabilité qu'ils ont eue, par exemple quand on fermait les écoles. François Ansermet.
Oui, effectivement, les enfants ont eu plusieurs rôles dans cette aventure pandémique qui n'est pas terminée. Mmh. On les a considérés comme responsables et porteurs sains. Ouais. Ensuite, on a dit que c'était plus le cas. Au fond, je crois que là, c'est une dimension qui peut aussi les stigmatiser, les créer presque une ségrégation des enfants, peut-être aussi introduire une crise générationnelle qui pourrait être inquiétante, c'est-à-dire que les rapports entre les générations est complètement bouleversé par cette incidence de la pandémie et du risque infectieux. Et au fond, par rapport à ça, je pense que le point majeur, c'est qu'on est... Au fond, ça nous a surpris par rapport à votre question, Frédéric Vorms.
Oui, que le coup qui tombe.
Le gouvernement a été surpris. Ouais. Le monde a été surpris, mais curieusement surpris par quelque chose que dans une certaine mesure on connaissait, puisque après chacun s'est penché sur la littérature de Camus en allant jusqu'à Thucydide sur la peste d'Athènes dans les guerres du Péloponnèse. Au fond, toute l'histoire n'a été faite que des grandes peurs en Occident, des grandes peurs dans le monde partout, et qu'au fond on a cette tension entre quelque chose qu'on ne savait pas et quelque chose qu'en fait on a compris qu'on savait. Mais en même temps, l'action autour de ça, elle n'est pas à l'abri du savoir, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas l'appui sur le savoir. Et ça, je pense que ça crée une dimension d'incertitude qui est au cœur du débat que nous avons. Et que par rapport à l'incertitude, il faut peut-être distinguer une incertitude destructrice, une incertitude de mort, et peut-être une incertitude de vie, une incertitude créatrice. L'incertitude de mort, c'est l'angoisse, c'est l'irreprésentable, c'est l'impensable, c'est ce qu'on ne peut pas saisir. Et puis l'incertitude de vie, elle est aussi là. Je crois que la dialectique entre pulsion de vie, pulsion de mort, on peut la retrouver dans l'attitude par rapport à la pandémie. Et comme le disait Catherine Tourette-Turgis, peut-être qu'on va changer avec ça. C'est-à-dire, peut-être c'est trop optimiste de dire ça, mais il y a peut-être une créativité qui peut résulter de cette aventure qui prend plutôt des allures de catastrophe.
Mais alors, justement, François Sermel, là, vous opposiez la vie et la mort, l'incertitude de mort et l'incertitude de vie. On va consacrer les cinq dernières minutes de notre discussion commune à se tourner vers plutôt la vie. Vous citiez Freud tout à l'heure, la psychanalyse. Vous me rappeliez, en marge de cette conversation, que Freud a écrit son texte sur la vie et la mort, les pulsions de vie et de mort à la suite de la guerre, mais aussi de la mort de sa fille, de la grippe espagnole, cette sorte de double peine catastrophique après la Première Guerre mondiale. Comment est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il faut faire comme lui ? C'est-à-dire aussi l'incertitude de vie, ça passe par la création artistique, sociale, intellectuelle, la parole, là où l'on est, pas se prendre pour Freud ou Mozart, mais finalement quand même agir, être soi-même, au fond, François Ansermet.
Oui, bah peut-être se prendre pour Freud, c'est une façon d'être soi-même, si on veut dire les choses de façon amusante. C'est-à-dire que là, c'était troublant de suivre la correspondance de Freud, effectivement, qui a eu la guerre 14-18, puis la grippe de 18, et la mort de sa fille, et une transformation majeure de sa théorisation du traumatisme, et des forces de vie et des forces de mort, de sa dialectique pulsionnelle, dans au-delà du principe de plaisir, qui malheureusement aboutit à malaise dans la civilisation, et pourquoi la guerre guerre, enfin, où il a pu définir aussi ses forces
pourquoi
de destruction.
Pourquoi malheureusement, François Ansermet?
Non, je dis malheureusement parce qu'il avait raison.
Ah, d'accord.
Il avait raison de dire qu'il y a un malaise dans la civilisation. Il avait raison de dire ce paradoxe que Freud isole dans Pourquoi la guerre, qui est que l'homme détruit son prochain pour se sauver lui-même. Mm-hmm. Donc il y a au fond une force là contradictoire. Mais peut-être que on doit être dialectique entre ces dimensions destructrices et ces dimensions créatrices. Mm-hmm. L'issue, ça n'est pas, c'est certainement pas un retour à l'état antérieur, mais plutôt aller vers un nouvel état, différent. Quand Guilhem, sur le normal et pathologique, disait des nouvelles allures de la vie.
Oui, il disait la guérison n'est pas le retour à l'état antérieur, justement.
Absolument, absolument. C'est pas le retour à l'état antérieur, c'est l'invention de nouvelles normes. Et j'aime beaucoup cette expression de nouvelles allures de la vie. Est-ce que, par-delà cette pandémie, par-delà cette catastrophe à la fois épidémiologique, mais de santé publique, mais aussi politique et sociale, on va pouvoir inventer des nouvelles pratiques du quotidien, des nouvelles valeurs, bricoler une nouvelle vie, de nouveaux rêves.
Alors, on espère, mais on se donne les moyens de le faire, un peu comme le théoricien qui a le courage d'affronter la mort, de la guerre, et c'est quand même créateur d'affronter aussi la destruction par la pensée. Catherine Tourette-Turgis, vous-même, vous disiez vous-même un peu la même chose que ce que François Ansermet vient de dire autrement, c'est-à-dire en disant, au fond, on va abandonner un peu, il va y avoir une sorte de tri post-pandémie, on va abandonner des fausses idées, des faux problèmes, peut-être se tourner vers des vrais problèmes, affronter nos vrais problèmes sociaux, qui sont tous ressortis finalement. Catherine Tourette-Turgis.
Oui.
Vous avez écrit d'ailleurs un livre, je le rappelle, qui s'intitule « La maladie comme occasion d'apprentissage ».
Oh, c'est extraordinaire, j'allais justement aller là-dessus. Moi, j'ai travaillé pendant 30-40 ans avec des malades chroniques, donc peut-être que nous avons à apprendre de l'expérience quotidienne des 20 millions de malades chroniques en France, qui, eux, vivent avec l'incertitude.
Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro, Catherine Tourette-Turgis? Le son est un peu parti, un peu plus loin. Voilà, si vous pouvez, merci.
Oui, peut-être nous avons à apprendre immédiatement de l'expérience quotidienne que vivent 20 millions de Français malades chroniques. C'est-à-dire, ils vivent avec l'incertitude, avec des moments de rémission, avec des moments éventuellement de rechute, de poussée. Donc, ils ont cette expérience-là. Et d'ailleurs, dès le début du confinement, l'Université des Patients, les malades chroniques nous ont appelés en disant « Oh, ça nous fait penser à ce que nous avons vécu. » Nous aussi, il y a eu des moments où on a été confinés parce qu'on était en attente de greffe, on était hospitalisés pour tel ou tel traitement, il fallait qu'on soit sans contact aucun, avec des vitrines dans un hôpital, etc. Donc, peut-être que là, les nouveaux héros, ce sont peut-être les malades chroniques. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on a à apprendre, vous voyez. Parce que finalement, on a cru qu'on était valide, et puis la société, elle était quand même construite par les valides, entre les valides. Et puis, tout ce qui était maladie, ma foi, c'était juste du bénéficiaire social, vous voyez. Ça n'avait pas de figure d'héroïsme, rien du tout. Peut-être que là, il faut un petit peu changer les choses.
Mais justement, en donnant aux patients, c'est-à-dire à tout le monde, finalement, maintenant, le pouvoir de choisir cette nouvelle norme de vie, cette nouvelle allure de vie dont parlait François Ansermet, c'est-à-dire, au fond, le malade chronique retrouve une capacité à construire sa propre vie grâce au traitement. La maladie n'a pas disparu, un peu comme la pandémie, ou un peu comme le sida ou la grippe ne disparaîtra probablement pas totalement, jamais, mais on doit pouvoir non seulement vivre avec, parce qu'on dit souvent ça un peu de l'extérieur, tu vas vivre avec, c'est un peu injonctif comme ça, mais on va pouvoir, chacun va devoir inventer sa propre vie, et c'est là que cette vie devient véritablement vivante, Catherine Tourette-Turgis.
Elle devient vivante, elle est affectée, elle est bouleversée, elle est vulnérabilisée, elle est fragile, elle est forte à la fois, et c'est une vie qui vaut une vie.
Une vie qui vaut toutes les vies. François, chaque vie valant toutes les vies, effectivement, un homme comme tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est aussi la dernière phrase des mots de Jean-Paul Sartre. François Ansermet, on s'approche aussi de la conclusion de cette conversation. Pour arriver à faire surgir depuis le sujet lui-même cette possibilité de vivre avec, mais cette possibilité personnelle de vivre avec. Il faut aussi le langage, il faut aussi le soin, la thérapeutique. Catherine Tourette-Turgis parlait de l'éducation thérapeutique. Au fond, la parole, pour vous, c'est aussi une forme d'accès à soi-même.
C'est sûr, la parole, l'enjeu de la parole, une pratique de la parole, mais pas seulement. Mmh. C'est aussi se servir de l'impossible, se servir de cet accident du destin, exploiter l'impossible pour ouvrir de nouveaux possibles. Hein, je pense qu'on pourrait dire d'un côté, il y a la mort en jeu qui met un terme à la vie, mais de l'autre côté, il y a la mort qui sous-tend la vie, la mort comme condition d'une nouvelle liberté, et que je pense que chaque sujet peut faire cette expérience d'un retournement de, et le pari de la mort qui sous-tend la vie, par-delà la mort qui met fin à la vie. Et c'est d'ailleurs les malades et les malades chroniques nous enseignent souvent de façon surprenante cette dimension.
Et vous pensez que c'est un
retournement?
Vous pensez
c'est
que
un retournement.
Ouais. Et vous pensez que cet après-coup positif, lui aussi, a déjà commencé en un mot, François Ansermet, cet après-coup aussi est possible?
Je pense que quand un sujet se met en confrontation avec ce point de crise, quand il admet la crise est une croisée des chemins. Dès lors que c'est une croisée des chemins, il y a l'ouverture vers un possible.
Merci, merci beaucoup à vous deux, Catherine Tourette-Turgis et François Ansermet, pour cette discussion autour de l'après-coup de la pandémie qui a déjà commencé, mais peut-être pas seulement pour le pire. À présent, ce soir, nous avons discuté pour savoir si l'après-coup de la pandémie avait déjà commencé avec Catherine Tourette-Turgis, professeure à Sorbonne Université, présidente de l'Université des Patients, et avec François Ansermet, professeur de psychiatrie à Genève et auteur de nombreux livres et psychanalyste. Et puis, cette émission a été aussi possible grâce à Alexandre Dang, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Souad Boukoursa, Julien Calvas, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.